Mais mon sujet, phrase qui m'a poursuivi pendant des mois et des mois, c'est « Va et ne pêche plus ». Alors, on va aller voir cette phrase « Va et ne pêche plus ». Et je propose de lire dans l'évangile de Jean, on va lire deux histoires. Évangile de Jean, chapitre 8, le premier verset. « Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. » Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Et un deuxième récit, dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 5. Jean, chapitre 5, à partir du verset premier, on commencera à la moitié du verset. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jusque-là, les deux lectures. Encore une fois, Seigneur, nous voulons nous mettre devant ta parole, devant ce texte, peut-être qui nous travaille, peut-être qui nous choque, peut-être qu'on ne lit pas. Mais tu as encore quelque chose à nous apprendre. Merci parce que tu es bon et que tu vas nous faire grandir. Seigneur, merci de pouvoir voir comme toi tu vois, Seigneur. Et nous à être ce que tu attends de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez remarqué deux récits avec la même fin. Le conseil de Jésus, ne pêche plus. Le péché. Celui qui nous colle à la peau depuis Adam et Ève, celui qui nous enveloppe si facilement, comme dirait l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, celui-là, le péché. Le conseil de Dieu, qui était direct à Caïn, nous nous souvenons, à Caïn n'est pas encore devenu un meurtrier, mais voilà ce que Dieu lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Genèse 4, 7. Selon ce verset, le péché est lié à nos agissements. Selon nos deux lectures dans Jean, l'adultère de la femme est consenti, mais interdit. Par contre, la maladie de l'homme de la piscine est liée à son péché. Puisque Jésus, après avoir dit « ne pêche plus », ajoute « de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Il vaut mieux faire de ne pas mettre cette phrase, mais pourtant elle est là. Quelque chose de pire. On connaît bien ce passage dans Jean 9, 1, 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « C'est pas lui, ni ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées. » Donc, on ne peut pas mettre toutes les maladies sur le dos du péché. Et certainement non plus des circonstances fâcheuses, tout ne vient pas du péché. Nous avons l'exemple de Jean, homme intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal, et pourtant il a été attaqué dans ses biens, dans sa famille, et même dans sa chair. Alors, bon, donc, pas de conclusion hâtive, ni de jugement au premier regard. Ce n'est pas parce qu'une personne est malade qu'automatiquement elle a péché. Mais parfois, Dieu permet que le péché soit accompagné et que ses conséquences soient pénibles et peut-être que parfois la gravité, ben, pour qu'on se rende compte parfois de ce qu'on est ou de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on ne doit pas faire. Et le péché est toujours, peut-être toujours lié à une repentance. Il ne faut pas voir non plus dans tous les orages de la vie, derrière ça, ça tombe. Hein, parce que si tu as ça, si tu as ça, on a déjà entendu, hein. Prier pour toi. Bon, hein. Il y a quand même des causes tout à fait naturelles. Le fait quand même d'avoir une addiction aux excès de manger ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir quelque chose de travers. Hein. Donc, si vous mangez trop, vous savez ce qui peut vous arriver. Et oui, évidemment, si quelqu'un roule à 180 à l'heure sans se soucier des autres, il y a parfois des conséquences qui peuvent mener à la prison. On a l'exemple du gars de Strippy Bragny, hein, qui a fauché le cortège carnavalesque. Voilà. Il y a des choses tout à fait naturelles, des choses qu'on provoque aussi. Mais revenons quand même à notre « va et ne pêche plus ». Notre petite dame se retrouve dans une situation par sa faute, par son péché. Elle est confondue par son adultère, prise en flagrant délit. Elle est des voyeurs, donc... Et selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Allons quand même revoir cette loi. Lévitique 20, 10, elle commence comme ça. Vous allez être étonné. Si un homme, je rigole, moi, je dis, qu'est-ce que la femme vient faire là? Si un homme commet un adultère, avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec une femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme seront punis de mort. C'est quand même incroyable que selon les spécialistes de la loi, qui connaissent bien la loi, c'est la femme qui a commis un adultère toute seule. Elle est la seule à avoir à être traînée devant Jésus et pour avoir la vie sous la sentence. Ce sera cette époque-ci. La lumière seule est braquée sur ce qui les intéresse. Hein. N'oublions quand même pas que ce sont des hommes. Et à mon avis... Jésus, apparemment, les connaît quand même bien. Il sait que c'est un piège. S'il dit de lapider selon Moïse, il se met à dos les Romains, qui se réservent le droit de l'exclusivité de la mise à mort. Et s'il ne le fait pas, ben, il se met à dos les Juifs. Le porte-à-faux est quand même dangereux, quoi, hein, et compromis impossible. Et en le désignant comme rabbi, on sait très bien qu'en hébreu, quand on dit rabbi, on est obligé de répondre. Il y a une obligation. Donc si je te dis Daniel, le rabbi, tu ne vas pas répondre. Bon, voilà, ça c'est la loi, c'est l'hébreu. Un rabbi interrogé doit toujours répondre à la question. C'est quand même oublier que Jésus est Dieu. Et qu'il est lui-même le législateur, le créateur de la loi. C'est quand même lui qui a tout écrit. Alors qu'importe la situation, lui, il a réponse à tout. Jésus connaît le cœur et les intentions de ses spécialistes de la loi. Alors le fait d'écrire par terre trouble les consciences. Alors, bien des commentaires, vous avez déjà entendu, ont essayé de deviner ce qu'il a écrit. Même si Jean n'a rien dit, pourquoi est-ce qu'on essaierait de voir et d'essayer de comprendre ce qui est écrit? Rien. Il suffit de voir les réactions pour voir quand même que ça doit être vérité. Nous remarquons quand même que ces réactions ne sont pas immédiates. Je ne sais pas si vous avez regardé dans le texte, puisqu'il continue à interroger Jésus quand Jésus, quand même, il écrit. Il n'y a que quand Jésus se relève, que ça fait-il. L'euro est tombé, ça y est. Ils comprennent. Parfois, il faut en abolir sans comprendre. On dit, moi je dis qu'il faut lire, et puis il dit qu'est-ce qu'il a dit, il faut relire. On lit comme ça. On ne sait pas trop bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais une petite parenthèse, le catéchisme de l'Église catholique fait une classification des péchés capitaux. Si je me trompe, on peut me corriger. Il y en a 7. La colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure. Péché relativement grave, et selon Thomas d'Aquin, le pire, c'est l'orgueil. Qui n'est pas négligeable non plus selon la Bible. Et puis, il y a le péché véniel, un peu moins grave, mais pardonnable. Et je cite une revue qui s'appelle La Croix. Citons quelques exemples de péchés véniels. Avoir une vaine estime de soi-même. J'ai trouvé ça pas mal. Si je me dénigre, c'est un péché. Je suis une créature de Dieu. Je me dénigre vis-à-vis de Dieu. Ou avoir une vaine satisfaction dans ce qui nous concerne. Se dénigrer. Et puis après, recevoir la Sainte Communion de manière insouciante avec des distractions. Là, j'ai souligné, parce que parfois, chez les protestants. Admettre en son cœur tout soupçon non fondé, tout jugement injuste contre son prochain. Avoir jugé est un péché. Pour cette petite parenthèse, pour dire que ce qui est écrit est certainement important. Les lois, les interprétations, les commentaires, les édits, les codes, tout ça est quand même important. Quelque chose qui est écrit en France, c'est le code napoléonien, et en Belgique, c'est le code de la Constitution instituée 1831, corrigé depuis 1960. Mais tout est écrit, on est donc soumis à des écrits. Connus, évidemment, enfin, je ne sais pas si vous connaissez toute la loi ou toute la législation, mais bon, c'est connu. Et les docteurs de la loi connaissent en fait, tout. Ils connaissent ce que Jésus écrit. Nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent. Sans pour autant s'en soucier, puisque Jésus ne fait qu'à un certain moment, il parle. Et ce n'est que quand Jésus parle, parce que vous avez remarqué, tant qu'il écrit, il nous interroge toujours. C'est quand Jésus parle que l'ambiance change. Verset 6. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. C'est parce que Jésus écrit qu'il trouble. C'est ce qu'il dit. Alors, parfois, on a beau avoir une Bible et ne pas la lire, c'est classique, c'est courant chez les chrétiens. Alors on se fie à ce que les autres enseignent, ce qu'on nous dit. Ah, la Bible, elle dit ça, donc si tu ne vas pas voir. Un faux, un tox, ou fake news, comme on dit maintenant. Ou encore, on a beau avoir une Bible et la lire, et ne pas entendre la voix de Dieu, ni la voix de Jésus. Mais quand on prend attention, quand nous méditons, il doit se passer quelque chose. On ne peut pas rester insensible. Il se passe quelque chose. Soit elle nous encourage, soit elle nous condamne. Ici, dans le cadre du docteur de la loi, elle condamne, puisque l'un après l'autre, ils partent. C'est marqué le détail. D'abord, les plus âgés, certainement qu'ils en ont plus sur la conscience que les autres, vu qu'ils ont vécu plus longtemps. Et puis jusqu'aux plus jeunes. Mais aucun d'eux ne reste. Personne ne se remet en question. On peut dire, ah oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Personne ne se repent, il reste sur les écrits. La loi dit que. Jusque-là. Par contre, la parole de Jésus vis-à-vis de la femme est salutaire. Où sont tes accusateurs ? Personne. Sans accusation, pas de procès. Le seul qui aurait pu lapider, exécuter la sentence, c'est Jésus. Jésus lui-même. Mais il pardonne et renvoie libre. Il pardonne. Va et continue ce que tu fais. De toute façon, les autres font la même chose que toi. Va, de toute façon, mon Père est amour et il va passer sur tout. Va, et de toute manière, tout le monde ira au paradis. C'est ce qu'il dit, non. C'est pas ce qu'il dit. Va et ne pêche plus. Ah, le péché qui nous colle à la peau depuis Adam et Ève, celui qui nous enveloppe si facilement, disant l'Épître aux Hébreux. Oui, je sais, j'ai déjà dit. Réfléchissons un peu au péché d'Adam. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. J'ai vu, j'ai mangé. Pas plus normal. Je vois une côte à l'os, j'ai bouché. Je vois, j'en vis, je prends, j'achète, je mange. Ce qui est péché. Je vois une femme, je la drague, je l'emmène dans mon lit, je me marie en faisant une seule chair, oui, officiellement, hein, et suivant la Bible, dès que je couche avec une femme, je suis marié selon certaines interprétations. De ce que nous pensons, ça coince déjà un peu plus. Surtout si, si c'est la femme du voisin. C'est péché. Enfin, c'est valable pour l'autre aussi. Hein. Si le voisin vient, hommes et femmes sont sur le même pied d'égalité. Alors pourquoi est-ce plus grave que de manger un fruit ? En quoi Ève a-t-elle convoité le fruit et qu'il a mangé, l'a-t-elle rendu coupable ? Là, moi, je ne pense pas, non, c'est pas une pensée. Parce que c'est quand même le problème de l'humanité, ce qu'elle a fait. Elle a mangé un fruit. Rien d'autre. Le problème, c'est que c'est devenu le péché originel. En fait, ce n'est pas le fait de manger qui est dangereux. C'est que c'est juste que Dieu, créateur de toutes choses, avait apposé un interdit sur ce fruit. C'est pas la manière de sa désobéissance, mais bien l'esprit dans lequel on fait l'acte. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis criminel. » Peut-être que tout le monde l'est. Hein. T'as pas passé à l'acte. On ne sait pas dire. Alors, la tentation n'est pas péché. C'est ce qui nous fait succomber. Dans le récit d'Adam et Ève, le regard sur le fruit n'est pas dangereux tant qu'il n'est pas envieux. Et c'est ce que dénonce Jésus. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère dans son cœur. Pour la convoiter. S'il n'y avait pas le mot, celui qui regarde une femme, je vous regarde, les hommes et les femmes. Ce n'est pas le fait de regarder qui dérange, c'est le fait de convoiter qui déclenche le processus du péché qui va passer à l'acte. Et si dans l'Église, et parfois moi-même, nous classons les péchés, Jésus, lui, ne donne que trois catégories. Trois. Deux qui se trouvent au même niveau. Dans notre cas, notre femme adultère va, ne pêche plus. Notre boiteux guéri va qu'il ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ces deux catégories reprennent tout l'ensemble des péchés. Tous les péchés qui sont pardonnables par le sang de Christ. La Bible nous donne aussi des listes. Par exemple, Jean a déclaré « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point au Père, mais vient du monde. » Mais il ajoute un peu plus loin, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Tous les péchés sont pardonnables. Vous allez me dire « sauf ». Ah. Ouf. Il y en a qui suivent. Sauf un. Le seul péché sans remède, le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, dans Marc 3, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés. Tout. Aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon et les coupables d'un péché éternel. Le contexte de ces versets nous montre que Jésus reprend les scribes qui disent qu'il est possédé de Belzébul et que tout ce qu'il fait, il fait par les démons. Il chasse les démons par les démons. Quand blasphémer contre le Saint-Esprit est donc, selon ce texte, attribué à Satan, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est renier, en fait, quelque part, la grâce. C'est comme, j'ai entendu l'histoire du condamné qui est dans le couloir de la mort, on vient lui apporter la grâce, il peut l'accepter ou la refuser. S'il la refuse, il n'y a plus de grâce. En bref, c'est repousser volontairement la divinité du Saint-Esprit, la divinité de Jésus, fils de Dieu, et surtout la souveraineté de Dieu. C'est en cela que le péché non repenti et entretenu peut devenir quelque chose de pire. Par contre, nos actes de désobéissance peuvent parfois mener à des conséquences qu'il faut assumer. Oui, parfois on fait des bêtises. Et j'ai un exemple que vous connaissez bien. C'est Moïse, avec le peuple d'Israël, qui traverse le désert et qui se plaint pour la deuxième fois de ne pas avoir à voir. À un certain moment, c'est bon, quoi. Hein. Alors Moïse parle à Dieu, qui lui donne une solution. Tu vois ce rocher, parle-lui, et l'eau jaillira. Mais Moïse, excédé, on peut comprendre, hein, excédé par l'attitude du peuple, il ne parle pas au rocher, mais il le frappe par deux fois. L'eau jaillit. Dieu répond. Mais la désobéissance de Moïse aura des conséquences. Il verra le pays de loin, mais il n'y entrera pas. Pourtant, Dieu l'a pardonné, vu qu'il réapparaît en transfiguration de Jésus. Moïse n'a pas été écarté. Moïse n'a pas été viré. Allez, t'as pas péché, je te vire. Je suppose que quand même Moïse s'est mordu les doigts. Mais il n'a pas attribué non plus ce miracle à Satan. Comprendre parfois que les conséquences de nos actes de désobéissance sont pardonnables, mais les conséquences sont. C'est souvent que quelqu'un qui a fumé pendant toute une vie et qui se convertit, c'est pas pour ça qu'il ne va pas décéder d'un cancer du fumeur. Les conséquences, elles sont là. En conclusion, de ce que va et ne pêche plus, c'est de dire que si nous nous sentons coupables, il n'est nul péché qui ne soit pardonnable. Par le sang de Christ, il suffit de le reconnaître, de le confesser et de ne pas y rester. Ce n'est pas non plus banaliser l'importance de certains actes, mais devant Dieu, un criminel d'enfant est tout aussi coupable que celui qui vole une chip dans un magasin. Le pire, c'est de refuser la grâce que l'œuvre de Jésus à la croix nous accorde pour notre salut. Évidemment, mes propos ne doivent surtout pas être pris comme une accusation. Je vous prie pour moi d'abord. L'accusateur, c'est Satan lui-même. Alors, si on se sent accusé, coupable, c'est l'autre qui met des affaires dans l'oreille. Le coupable est devant la croix. Alors, encore aujourd'hui, comme je dis souvent, encore aujourd'hui est une année de grâce. Alors, prenons la parole de Dieu comme des conseils d'amour d'un père qui veut que ses enfants ressemblent à son frère, Jésus-Christ. Et pour cela, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit dans toute la vérité. À nous de ne pas l'attrister, ni l'éteindre, parce que lui est aussi Dieu. Alors aujourd'hui, laissons ce qui nous colle à la peau, au pied de la croix, et allons vers cette vocation de chrétien qui veut des feux de Christ. Ne l'oublions pas. Bref, va, ne pêche plus. Va dire aux gens que Dieu les aime. Va proclamer la victoire de Jésus. Va être la lumière du monde. Sois ce que tu es. Une fille, un fils de Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que, encore une fois, tu nous accueilles. Tu nous pardonnes si nous venons près de toi. Tu nous relèves. qui ne nous écrase pas, qui ne nous accuse pas. Jamais il n'y a eu une accusation de toi. Mais à chaque fois, il y a eu des paroles d'amour, des paroles de pardon. Seigneur, qu'à toi surtout, revienne toute la gloire. Amen.